Bienvenue à Sur la ligne, cette émission Tout Tennis. Aujourd'hui, on parle de Félix Auger-Aliassime qui ajoute Tony Nadal à son équipe. Louis Bofiga va venir nous en parler. C'est le début de la saison de terre battue. On jette un regard vers Monte Carlo où Benoît Paire a encore fait des siennes. Et on se pose la question, doit-on vacciner les athlètes en priorité? Hugues Léger, bonjour. Nicolas Richard, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Ok, oui.
Let's go, c'est parti.
Salut les gars, très content de vous savoir avec moi pour une autre édition de Sur la ligne. Égléger, comment ça va? Il commence à faire beau. As-tu mis ton filet sur ton terrain chez vous?
J'ai reçu mon filet hier. Il n'est pas encore installé parce que ma surface n'est pas bien prête encore, mais ça ne saurait tarder. Par contre, j'ai repris l'entraînement au club vendredi dans ma ligue. J'ai joué 3 heures. Je pense que j'étais un peu ambitieux sur ma reprise parce que j'ai souffert tout le week-end après.
Ah oui, hein, mais est-ce que cette souffrance-là en valait la peine?
Oui, parce que ça va payer pour plus tard dans la saison. C'est juste qu'à 53 ans, il faut modérer ses ardeurs des fois. Donc, mon corps m'a rappelé à l'ordre tout le week-end.
Ouais, ben là, les gens qui te voient, qui te connaissent pas ou qui te voient pas, là, peut-être qu'ils écoutent en version audio, t'es quand même très en forme. Là, je vais te dire une chose, si je peux être en forme comme toi à ton âge, je vais le prendre, je peux te dire.
Je m'accroche, Alexandre.
on a tout un épisode aujourd'hui. On a Louis Bofiga qui va venir nous parler de Félix Auger-Aliassime. On a aussi Louis-Philippe Trozzo, qui est le rédacteur en chef de Victoire Média. Peut-être avant qu'on tombe là, sur l'aspect tennis, Hugues, peux-tu nous parler un peu plus de Victoire, parce que c'est toi qui es derrière ça, puis c'est une coproduction avec le podcast.
Ben, Victoire Média, c'est une plateforme qu'on a lancée il y a 2 ans avec Assun Camara, ancien joueur de l'Impact, qui était voué à la culture soccer. On trouvait que la culture soccer qui est grandissante chez la jeune génération en ce moment, on sait que le soccer est la plus grosse fédération au Québec en termes de membres, deux fois plus gros que le hockey en fait. On parle de 90 000 membres et plus. Et en passant, c'était l'anniversaire hier de Soccer Québec, donc ils célèbrent leur centenaire en ce moment, donc j'en profite pour en parler. Donc, Victoire Média a commencé du côté soccer. Moi, étant fan et joueur de tennis, je me dis, ben écoute, on parle de 2 sports planétaires, qu'on parle de soccer et tennis, les 2 sports les plus pratiqués au niveau international. Ça serait logique d'amener du contenu sur la culture tennis aussi aux Québécois. Et c'est ce qui nous a réunis avec le podcast Sur la ligne et l'émission de radio maintenant.
Et puis, ben, on est bien content de ce projet-là et que tu sois derrière ça aussi. Puis, ben, justement, on va accueillir Louis-Philippe, qui est un des membres de ton équipe un peu plus tard. Avant qu'on tombe dans le vif du sujet, je veux qu'on fasse un petit passage à Roland-Garros parce que, bon, cette semaine, on a appris que c'était repoussé d'une semaine et ça a fait énormément jaser. On a même vu Alizé Cornet attaquer la ministre des Sports en France en ondes, en direct. Ça a fait jaser beaucoup. Tu vois ça comment, toi, ce report-là d'une semaine qui, au final, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va changer.
Ben, écoute, c'est une année, encore une fois, atypique cette année sur le circuit. Il faut être, je dirais, indulgent avec les organisateurs de tournois qui peinent beaucoup, comme les revenus de billetterie sont plus là, la gestion des bulles et tout ça. Et oublions pas aussi que la France est dans une situation sanitaire compliquée en ce moment. Donc, ils sont en reconfinement, ils sont en couvre-feu intensif. Eux, c'est à 18 heures. Hein. Nous, on est à 20 heures à Montréal en ce moment. Eux, c'est à 18 heures. Faut pas oublier ça. Donc, c'est compliqué pour les organisateurs. Puis, oublions pas qu'il y a 3 Masters 1000 qui se jouent. Là. Cette saison de terre battue dont on parlera beaucoup durant cette émission est très intense pour tout le monde. Je pense que c'est assez sage, en fait, de repousser d'une semaine. Il peut se passer beaucoup de choses dans les 4-5 prochaines semaines. Donc, moi, je comprends leur décision. Encore une fois, les joueurs sont ceux qui souffrent. Il y a beaucoup de grogne au sein des joueurs. On va en parler aussi plus tard dans l'émission, mais je crois que ça se comprend tout à fait dans le contexte.
Ouais, et ce que je disais, c'est qu'on a décidé de repousser le tournoi pour accueillir peut-être un peu plus de spectateurs. Là. Fait que je sais pas trop si c'était un point de vue de la logistique qu'on avait besoin de travailler un peu plus, mais en tout cas, on espère avoir des spectateurs. Et ben, oui. Si c'est une semaine de délai pour mettre du monde dans les gradins, ben pourquoi pas?
Oui. Ben, tu sais, Alex, je crois que la Fédération française, la FFT, est très veut comme ils ont fait à l'automne dernier, veulent faire un statement sur le marché qui a trait à la normalité de la situation. C'est-à-dire, ils veulent essayer de faire de cet événement important en France, qui est Roland-Garros, les Internationaux de France, un moment dans l'année qui ressemble à ce qu'on est habitué de connaître à chaque printemps. Donc, ils tentent d'amener un peu de normalité dans la situation. Donc, je comprends ce qu'ils veulent accomplir et c'est très louable. Mais encore une fois, une semaine de plus, est-ce que ça va changer tant que ça? Oui, c'est aligné avec les directives gouvernementales qui devraient être un peu allégées après 4 semaines, mais c'est pas garanti. Donc, tout dépend de comment la pandémie se comportera d'ici là en France. Mais je comprends ce qu'ils veulent accomplir. Puis moi aussi, j'ai envie de voir des gens, les joueurs ont envie de voir des gens dans les estrades. Ça change l'énergie des matchs complètement, mais ça va être compliqué. Donc, allons-y semaine après semaine, on verra ce qui se passe.
Oui, ça devrait faire l'affaire de Benoît Paire, qui, on en parlera un peu plus tard, lui, est tanné, disons-le, comme ça, de pas jouer devant des spectateurs. Hugues, s'il y en a un qui connaît bien la Fédération française de tennis, c'est Louis Bofiga, puis on a la chance de le recevoir. Messieurs, on a l'honneur cette semaine, une fois de plus, de recevoir la légende du tennis canadien, M. Louis Bofiga. Monsieur Bofiga, merci de faire ça pour nous. On vous a invité pour parler notamment de Monte-Carlo. C'est une place un peu spéciale pour vous, je pense. Hein?
Eh bien oui, c'est une place un peu spéciale. Je dirais que c'est le club où je suis né, puisque mon grand-père y travaillait comme jardinier du club. Donc, dès ma plus jeune enfance, j'allais traîner dans les allées du Monte Carlo Country Club.
C'est quoi votre plus beau souvenir de ce tournoi-là ou ce que vous associez le plus spécial?
Ben, du tournoi, c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer quelques fois le tournoi de Monte Carlo, puisque j'avais un laissez-passer attribué par les organisateurs. Donc, et je pense qu'une fois, j'avais battu un joueur qui était aux alentours de la 50e place ATP. Donc, ça a été un de mes meilleurs résultats. Et puis, c'était en plus sur le central à Monaco. Donc, c'était assez sympa.
Moi, je crois fermement que c'est un des plus beaux cours centrales au monde, tout près de la Méditerranée, sur le rocher, vu sur les montagnes derrière, vu sur la mer devant. Vous deviez passer beaucoup de temps au club quand même. C'était un peu votre...
Ah oui.
Droit tous les jours.
Ouais, j'y passais beaucoup de temps parce que j'y allais avec mon grand-père, quoi. Donc, il m'amenait le matin, puis je rentrais le soir, quoi. Donc, beaucoup de temps et je dirais du bon temps parce qu'on s'amusait aussi avec des copains à l'intérieur du club. On jouait au soccer. Enfin, c'était quand même des bons souvenirs.
Ouais. Et on sait que le prince Albert de Monaco est un grand fan de tennis aussi. Peut-être que vous pouvez nous parler un peu de son association avec le Monte Carlo Country Club.
Oui, tout le temps, la famille princière a été supportrice du tournoi et puis du tennis. Je sais que le prince Rainier venait jouer souvent au Monte Carlo Country Club. Le prince Albert, j'ai joué en double avec lui quelques fois. Donc, c'est vrai qu'il supporte beaucoup, beaucoup le tennis à Monaco.
Ouais. Et vous vous attendez à quoi comme tournoi cette année, si on tombe plus dans l'actualité là?
Ben, comme toujours, ça va être un très beau tournoi parce que y a tous les meilleurs joueurs sont là. Il y a Nadal, il y a Djokovic, il y a Zverev, puis il y a tous les jeunes, Félix, Sinner, etc. Donc, ça va être encore une fois, c'est le premier rendez-vous sur terre battue. Donc, c'est toujours intéressant de voir où en sortent les joueurs à ce moment de l'année. Et puis, ben, je pense qu'on va se régaler parce que avec le cadre idéal pour bien jouer, pour avoir un beau spectacle. Ça va être encore un grand tournoi.
Et M. Bofiga, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne sont pas nécessairement des experts ou qui ont joué à un haut niveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'adaptation que les joueurs doivent faire entre la saison du dur et maintenant la saison de terre battue qui commence à Monte-Carlo concrètement?
Mais c'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation parce que la terre battue, c'est une surface vraiment un peu spéciale. Il faut déjà réapprendre, je dirais, à glisser parce que on peut glisser pour aller atteindre donc les balles aux différents endroits du terrain. Donc voilà. Puis après, il faut aussi retrouver un petit peu de la régularité parce que surface en dur, qui plus est sur les terrains indoor, ben la surface, les échanges sont très courts. Alors que là, on va allonger les échanges. Donc, il faut aussi adapter son entraînement physique à ça, faire des séances plus longues. Je dirais reprendre un petit peu le jogging, des joggings longs. Voilà un petit peu tous les ingrédients pour pouvoir se réadapter à la terre battue.
Et il y en a un qu'on va suivre plus particulièrement, Félix, qui va travailler avec Tony Nadal. Vous voyez ça comment, cette association-là entre Félix et Tony Nadal?
Mais je pense que Félix voulait avoir à ses côtés une période, à ses côtés un entraîneur qui a une grosse expérience, une expérience des grands chelems. Et puis Tony Nadal, il a quand même, en tant qu'entraîneur, remporté de nombreux grands chelems. C'était surtout ça le but de Félix, c'est de pouvoir l'aider à remporter des grands tournois comme Monte Carlo, comme Roland Garros, comme Wimbledon, l'US Open, l'Australie. Voilà pourquoi il s'est associé avec Tony Nadal. Et puis, bon, ben, on va voir avec l'expérience qui va se passer, mais je pense que c'est un bon choix.
Et est-ce que vous pensez que c'est le genre d'entraîneur qui peut vraiment l'amener au prochain niveau, même s'il l'a vécu avec Rafael Nadal? Tu sais, Nadal est quand même un joueur d'exception. Est-ce que Félix est le bon joueur pour un gars comme Tony Nadal?
Mais je pense que oui, parce que si Tony Nadal s'est engagé, c'est qu'il y croit. Je ne le vois pas du tout s'engager avec un joueur moyen, alors qu'il avait décidé de moins voyager, puis de s'occuper, je dirais, en priorité de son académie. Donc, s'il a accepté d'entraîner Félix quelques semaines, c'est qu'il y croit à fond et qu'il espère lui aussi, en tant qu'entraîneur, regagner un grand chelem avec un autre joueur.
Je te laisse enchaîner.
Ouais, ben je serais très curieux de voir le prochain match entre Rafael Nadal et Félix. Quels seraient les conseils que l'oncle Tony pourrait donner à Félix contre Rafael Nadal?
Moi, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il a déclaré déjà que s'il y avait un match Félix et Raphaël, il n'irait pas voir le match. Parce qu'il, et ça, on peut le comprendre, il ne peut pas être contre son neveu.
M. Bonne Bourfiga, réponse. lorsqu'un entraîneur du calibre de Tony Nadal se joint à l'équipe de Félix Auger-Aliassime, est-ce que c'est pour gagner maintenant ou c'est pour construire sur le long terme?
Bon, je dirais que c'est pour construire sur le long terme. Mais s'il peut gagner maintenant, eh bien, il va le prendre. Hein. Mais c'est surtout pour construire sur le long terme. Ils vont faire un projet, je veux dire qu'ils vont essayer d'améliorer étape par étape toutes les diverses facettes du jeu de Félix. Donc, c'est un projet à long terme, à n'en pas douter.
Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question-là et sentez-vous bien à l'aise de ne pas répondre, mais Guillaume, lui, il voyait ça comment, cette association-là? Est-ce qu'il pense que c'est une bonne chose pour Félix?
Moi, je n'ai pas parlé avec Guillaume, mais il faudrait lui poser la question. Je ne peux pas répondre à sa place, mais il n'y a pas de raison qu'il voit ça d'un mauvais œil. Je ne pense pas. Guillaume, c'est un garçon très ouvert, et donc il n'aurait aucune gêne à répondre à cette question.
C'est quoi la chose, vous pensez, que Tony Nadal va pouvoir cibler avec Félix qui pourrait vraiment l'amener à un autre niveau? Parce que là, il est très près de. Ben, il est parmi les meilleurs joueurs au monde déjà. Bon, il a plusieurs finales sur le circuit. Il manque peut-être juste la petite coche à aller chercher. Qu'est-ce que Tony Nadal va y apporter spécifiquement?
Ben, je pense qu'il peut lui amener la confiance, l'expérience qu'il a des grands moments. Ceci étant dit, puisqu'avant vous parliez de Guillaume Marx, il va pas tenir un autre discours que lui tenait Guillaume, parce que personne n'a inventé le tennis. Donc, ils vont dire la même chose, mais Tony Nadal va le dire différemment. C'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Mais voilà, je pense que c'est l'expérience et l'habitude de gérer les moments importants dans un grand tournoi.
Nico?
Ben, ce que j'allais vous demander, c'est qu'on ne vous a pas entendu nécessairement depuis le parcours de Bianca Andreescu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce tournoi? Évidemment, la fin un peu malencontreuse à Miami.
Ben, je pense que j'ai toujours dit, c'est que c'est la meilleure joueuse au monde. Tout simplement, c'est elle qui est, pour moi, elle est au-dessus des autres. Et on a pu le constater, alors qu'elle n'avait pas joué depuis 1 an et demi, et ben, elle fait un tournoi, et puis elle va en finale, et puis elle bat des Muguruza en jouant un tennis extraordinaire. Elle a battu l'Espagnol, c'est extraordinaire. Donc, oui, elle a un talent incroyable, puis c'est une matcheuse hors pair, et pour moi, c'est la numéro un incontestable du tennis féminin.
Wow, c'est toute une déclaration parce que le tennis féminin est à un haut niveau là, quand on pense, vraiment, vous la voyez devant des joueuses comme Naomi Osaka, par exemple.
Ouais, je pense que elle est, ouais, elle est un petit peu devant. Si ce n'est devant, elles sont au même niveau. Mais ouais. Mais oui, je ne vois pas ce qu'Osaka de plus que ce que Bianca.
Parlant de Bianca, M. Barfiga, elle a dit qu'elle allait faire l'impasse sur la Billie Jean King Cup. Peut-être un petit mot sur cette compétition-là, là, cette semaine. Vous voyez ça comment les femmes du côté du Canada et ce premier match-là?
Mais ça va être difficile. Je dirais, ça va être très difficile. C'est sûr, quand vous jouez sans Bianca, sans Eugénie, ça devient compliqué. Bien qu'on ait, évidemment, on a quand même une bonne équipe avec Leïla, avec Rebecca, avec Sharon Andou. Mais quand il vous manque la numéro 1, qui plus est avec le niveau de Bianca, et que vous jouez en plus à l'extérieur, c'est compliqué. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais je m'attends à un match très serré, voire difficile.
En même temps, il y a Rebecca Marino qui peut très bien surprendre qui peut battre peut-être n'importe qui. Est-ce que vous pensez que contre la Serbie, c'est prenable quand même?
Oui, bien sûr, c'est prenable. Parce qu'actuellement, en plus, Leïla, elle joue vraiment du très, très bon tennis. Puis Rebecca, elle va quand même jouer sur sa surface, à l'intérieur, sur dur. Donc, oui, ça va être un match très équilibré. Mais je répète, un match difficile parce que ça se joue à l'extérieur.
Ben, Monsieur Bourfiga, je vous remercie infiniment pour votre temps. Une fois de plus, c'est toujours un grand honneur pour nous de jaser tennis avec vous. Et on vous laisse retourner à Monte-Carlo, profiter du tournoi qui est si cher à vos yeux.
Ben, merci beaucoup.
À
Merci.
bientôt.
Bye bye.
Au revoir.
Messieurs, c'est une année spéciale dans le monde du sport en général et c'est le tennis, il fait pas exception. Et pour en parler, ben, on a un collaborateur recru, Louis-Philippe Trotsot. Merci, Louis-Philippe, de t'intégrer à l'équipe. Je vais te demander comment ça va d'abord.
Ben d'abord, ça va très très bien. J'ai pu frapper mes premières balles jeudi dernier, donc je suis bien heureux.
Es-tu allé te faire détruire contre Hugues Léger et son puissant coup droit?
Non, mais ça ne saurait tarder, je pense.
Question de miner ta confiance un peu là, pour le début de la saison de tennis. Louis-Philippe, on t'a invité parce que bon, tu voulais nous parler de la situation COVID, vaccination, tout ça dans le monde du tennis. Je vais te laisser commencer sur certains commentaires qui ont été émis à Miami. Tu voulais revenir là-dessus.
Oui, c'est ça. Ben, tu l'as dit, là, les gars, on a beau essayer d'avoir la tête à autre chose. C'est difficile de ne pas parler de la crise qui nous secoue, même lorsqu'on discute sport. Donc oui, aujourd'hui, je vous parle de la vaccination des joueurs et des joueuses de l'ATP et de la WTA. Plus largement, on va se poser la question, est-ce qu'il faut placer les athlètes professionnels parmi les groupes prioritaires pour la vaccination? Il faut dire que c'est dans l'air ces derniers jours, surtout après les commentaires, c'est ça, de certains joueurs la semaine dernière au tournoi de Miami. Il y a quatre des meilleurs joueurs au monde qui ont publiquement exprimé leur scepticisme puis leur manque de confiance envers les vaccins contre la COVID-19. Qui sont-ils? Il y a Andrei Rublev, il y a Diego Schwartzman, Aryna Zabalenka et Elina Svitolina. Pourquoi? Bien, pour la huitième raquette mondiale, Andrei Rublev, personnellement, il a dit qu'il ne voyait pas l'intérêt de prendre un vaccin puisqu'il ne procure aucun privilège aux joueurs, que les joueurs vont tout de même devoir, tu sais, se soumettre à la quarantaine et aux bulles des tournois. Diego Schwartzman, lui, 9e mondial, il s'est aussi dit contre les vaccins, mais tiens, tiens, il est prêt à reconsidérer sa position si le vaccin devient obligatoire pour pouvoir participer aux Olympiques. Du côté des femmes, la Biélorusse Aryna Zabalenka, 7e au classement, elle, c'est carrément l'efficacité du vaccin qu'elle remet en doute, même si les revues scientifiques là, rapportent le contraire. Elle dit qu'elle a du mal à s'imaginer que des pharmaceutiques aient pu concevoir un vaccin en un si court délai de temps. Et c'est pourquoi non seulement elle n'en veut pas pour elle, mais elle ne souhaite pas non plus que les membres de sa famille soient vaccinés. Enfin, pour Svitolina, c'est un peu une combinaison là, de tous les arguments, là, que ça ne permet pas d'éviter la quarantaine et que la conception des vaccins a été trop précipitée selon elle. Donc, voilà pour les commentaires.
Ouais, dans le cas de Svitolina, je pense qu'elle craint aussi les effets secondaires, là, surtout du vaccin. Là. C'est ce que je disais. C'est un argument, je pense, qui se défend. C'est sûr que l'échantillon est encore mince, hein, les gars, pour tout ce qui est les causes et conséquences des vaccins. On commence là depuis quelques mois ou semaines à vacciner en masse. Là. Alors, on aura plus de données. C'est intéressant. Je pense que c'est représentatif d'une certaine manière de ce qu'on retrouve dans la population. À mon sens, à moi, c'est pas anormal que certaines personnes dans le monde du tennis émettent des opinions de ce genre-là. Maintenant, on peut être d'accord ou pas avec ça. Je sais pas, Hugues, Nico, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ben, de mon côté, je suis tenté d'aller sur l'argument plutôt économique. D'un point de vue social, on peut se questionner si les sportifs devraient être un groupe prioritaire. La réponse, c'est pas évident. C'est sûrement pas oui d'une façon automatique. Après, t'as l'argument économique toujours. Oublions pas que ces tournois-là génèrent quand même beaucoup de revenus. Si ça facilite la motivation des joueurs, parce que ça semble être un gros sujet en ce moment, à se présenter au tournoi et que ça a un impact sur les bourses. Et sur l'intérêt pour les tournois. Donc, le moteur économique de l'ATP, de la WTA se remet en marche plus rapidement si les vaccins sont faits. Je me dis pourquoi pas le considérer.
De mon côté, ce qui me fascine, c'est que les joueuses comme Svitolina, par exemple, ne sont pas en accord avec la science, n'y font pas confiance, mais leur vie est basée sur la science, que ce soit la nutrition, les entraînements, les traitements, et là, tout d'un coup, se retirent parce que bon, la science ne serait pas fiable. C'est là où j'ai de la misère.
Ben ouais, Svitolina, c'est plus, je pense vraiment que c'est, en tout cas, selon ce que moi j'ai lu, c'est plus par rapport aux effets secondaires, là. Tu sais, c'est pas comme encore qu'est-ce qui peut arriver. Je pense qu'elle est plus inquiète que contre le vaccin. En tout cas, c'est ma compréhension de la chose. Et Louis-Philippe, comment l'ATP et la WTA ont réagi à ces affirmations-là?
Bon, ben c'est ça, vous devinez là, que ces commentaires-là, de quatre joueurs de l'élite mondiale, là, en plus, là, ce n'est pas passé inaperçu. Ça a provoqué une petite onde de choc là, au sein des circuits professionnels de tennis. Et dans les jours qui ont suivi, ben, il y a les organes de gouvernance et de l'ATP et de la WTA qui ont publié des communiqués dans lesquels ils ont encouragé tous les joueurs, surtout ceux qui sont hésitants, à se faire vacciner. Et ils écrivent, et je les cite, qu'ils vont continuer d'éduquer les joueurs aux bienfaits et aux avantages de la vaccination et que c'est un pas nécessaire vers le retour à la normalité souhaitée par tous. Donc, par continuer d'éduquer, messieurs, vous comprenez que l'ATP et la WTA n'entendent pas forcer les joueurs à se faire vacciner, ouais. Du moins pour le moment. Par contre, et c'est ce qui va intéresser les joueurs, en réponse là, à ces commentaires-là à Miami, l'ATP a décidé de mettre à jour ses protocoles sanitaires pour finalement offrir des privilèges à ceux qui vont choisir de se faire vacciner. Puis parmi les privilèges les plus notables, les joueurs vaccinés, n'auront plus à se placer en quarantaine à leur arrivée en attendant leur résultat de test de dépistage et ils ne seront plus considérés contact proche d'une personne testée positive si contact il y a eu. Vous conviendrez que ce n'est pas rien, là, surtout l'exemption là, de la quarantaine, ça a vraiment de quoi inciter les plus récalcitrants. Et d'ailleurs, sachez les gars que c'est 7 semaines que les nouvelles règles entrent en vigueur sur le circuit de l'ATP à Monte Carlo. Chez les femmes, cela dit, ce n'est pas encore fait, mais ça ne saurait suivre, là, nous dit-on.
Ouais, ben si on peut, si il force pas les joueurs, mais il suggère fortement de la façon dont on parle et de la façon dont il structure l'entente d'une certaine manière. Ben et si les joueurs peuvent éviter la quarantaine dans un sport où tu voyages autant que le tennis de pays en pays, c'est un game changer pour la planification de la saison et pour la saison. Alors c'est sûr que de ce côté-là, c'est un pas en avant contre la COVID d'une certaine manière si l'ATP et la WTA peuvent encourager les joueurs à se faire vacciner et qu'on peut éviter la quarantaine. Cela dit, s'il y avait des récalcitrants, il y avait aussi des joueurs qui voulaient qui voulaient donner l'exemple d'une certaine manière, là, LP.
Oui, donc c'est ça. Il y en a des controversés, disons, mais il y en a aussi qui montent la voie. Puis je pense entre autres à Simona Halep, 3e mondiale. Elle a été l'une des premières à se faire vacciner. Elle a diffusé ça sur les réseaux sociaux. En plus, c'était en février dernier. Et il y a aussi le toujours vertueux Raphaël Nadal qui lui aussi montre la voie. Bon, il n'a pas nécessairement là, vanté les vertus scientifiques de la vaccination, mais il se dresse, disons, en gardien des règles et il dit qu'il faut le faire pour protéger le circuit. Pour vous expliquer rapidement, je vous ramène presque un an en arrière lorsque Novak Djokovic avait affirmé qu'il était contre un éventuel vaccin contre la COVID-19 parce que oui, le numéro un mondial s'était positionné ainsi. Et devant toute la commotion là, que ça avait créée, il s'était ravisé en disant simplement qu'il ne voulait pas qu'on lui impose le choix. Mais le mal était fait. Et bref, Raphaël Nadal l'avait pris à contre-pied. Puis là, je vous parle pas sur un court de tennis, je vous parle dans une entrevue pour le quotidien La Voz de Galicia. Il a dit que Djokovic n'aurait pas de passe-droit si un vaccin devenait obligatoire sur le circuit et qu'il aurait à s'y conformer, sans quoi il allait devoir faire une croix sur sa fin de carrière, rien de moins. Puis même pour vous dire, là, Nadal, il a même comparé les vaccins contre la COVID aux médicaments interdits par les agences antidopage. Et je le cite, c'est la même chose, c'est une affaire de règlement, il s'agit de suivre les règles, rien de plus. Alors voilà pour les opinions là, des joueurs et les réactions.
Ouais, bon, on sait que depuis un an, là, Novak Djokovic et la crise du COVID, ça a été tout un téléroman. Là. Certains l'ont même surnommé Novak Djokovic. C'est en dérision, évidemment. Là. Mais non, Novak... Et on en a parlé dans le podcast dans le passé. C'est un peu dommage parce que ben, en tout cas, c'est un peu dommage, dépendant de quel bord tu te situes, là, mais je vais parler pour les gens comme moi qui sont, je ne sais pas si c'est une équipe, là, mais pro-vaccin et pro... Faut qu'on sorte de cette crise-là à un moment donné, on va se fier aux scientifiques. Là, et Novak Djokovic, avec son statut de numéro un mondial, son statut de vedette internationale, pourrait décider d'en faire plus, je vais dire ça comme ça. Et ça ouvre la question, messieurs, est-ce que les athlètes professionnels devraient être vaccinés en priorité? LP, je vais te laisser commencer puisque c'est toi qui étais l'auteur de cette chronique-là.
Oui, bien écoute, vous avez déjà touché à plusieurs points, là, mais pour certains, la question en soi, elle est choquante d'un point de vue éthique, considérant que, par définition, les athlètes sont en excellente condition physique, qu'ils sont moins à risque de souffrir de complications graves de la COVID-19, et donc ils ne devraient pas passer avant les personnes âgées et les personnes qui présentent, par exemple, une comorbidité. Juste pour vous dire aussi, puis mettre tout ça en perspective, là, au Québec, la vaccination des individus avec une maladie chronique, elle ne commence qu'aujourd'hui et on est encore loin d'une réelle sortie de crise. Alors, à qui la dose prioritaire? Moi, je vous répondrais en disant que la question, elle en appelle à une autre. À savoir, les athlètes sont-ils indispensables au bon fonctionnement de la société? En d'autres mots, est-ce que... C'est à se demander s'ils sont des travailleurs essentiels. Est-ce que leur statut d'athlète devrait leur permettre de figurer dans les listes prioritaires où figurent, notamment au Québec, les travailleurs de la santé, tout récemment, les policiers, les pompiers et les enseignants? Bref, sont-ils essentiels? En tout cas, on peut dire, puis je pense que vous en conviendrez, qu'ils sont une source de divertissement importante en ces temps chargés émotionnellement, là, quand même, disons-le. On a qu'à penser là, à la semaine d'inactivité du Canadien de Montréal fin mars. Je peux vous assurer que pour bien des gens, la semaine elle a été longue, puis elle a pesé lourd sur le moral, puisqu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent après le couvre-feu.
Ben, c'est certainement l'argument prioritaire dans ce type de débat-là, c'est-à-dire est-ce que le divertissement devient essentiel? On a vu le gouvernement au Québec, en tout cas, faire des pieds et des mains pour pouvoir relancer le Canadien de Montréal, justement. On a également aidé le hockey junior dans le cadre de la LHMQ. Alors, on a considéré ça comme un divertissement visiblement essentiel. Alors, c'est un argument qui... C'est certainement l'argument le plus important. Nico, je vais commencer avec toi. Est-ce qu'on devrait vacciner les athlètes en priorité?
Je pense pas. Les athlètes sont-ils utiles? Certainement. Sont-ils nécessaires? Je ne pense pas. Déjà qu'ils ont le privilège de faire ce que beaucoup de gens ne peuvent pas faire depuis un an, c'est-à-dire pratiquer leur passion, exercer leur métier, que ce soit au tennis, que ce soit au hockey, au football, au golf. Après, lorsqu'on se demande sont-ils nécessaires, ben pourquoi devraient-ils recevoir un vaccin en priorité avant les mécaniciens, les éboueurs, les avocats. C'est plus là où, lorsqu'on remet en contexte la validité de leur métier, évidemment qu'on, LP, tu l'as bien dit, c'est un divertissement. On en a besoin. Ça nous divertit dans ces temps difficiles. Mais maintenant, doivent-ils passer en priorité? Je ne pense pas, non.
Hugues?
Je pense la même chose. Je pense que les clientèles prioritaires, elles le sont pour de très, très bonnes raisons. Je pense que les athlètes professionnels sont moins à risque. Je pense qu'ils ont, comme le disait Nico, ils ont la possibilité de faire leur sport dans certaines conditions qui sont un peu plus pénibles, d'accord, mais dans le contexte global, je pense que c'est un moindre mal. Par contre, je suis content qu'ils puissent continuer à performer comme ça, effectivement, pour le volet santé mentale, le volet divertissement qui est très relié. On perd tous nos repères. Donc, nous, comme amateurs de sport, notre année est beaucoup rythmée par les événements sportifs. Que ce soit le Masters en ce moment, ce qui se passe au tennis en ce moment, ou toutes les grandes ligues. Donc, je pense qu'on a besoin de ça, mais de là, les qualifier de travailleurs essentiels, je ne suis pas prêt à faire ce pas-là. Par contre, au niveau divertissement, santé mentale, on a besoin de leur présence, mais je pense que dans le cadre contrôlé qu'on voit actuellement, c'est très bien. Donc, ils ne devraient pas être prioritaires.
Je vous propose un argument, si vous voulez, en faveur de la vaccination prioritaire, disons notamment des joueurs de tennis, là, par exemple, parce que on l'entend souvent, ils ne sont pas si nombreux, même si on inclut leur garde rapprochée. Donc, il y en a qui disent que de mettre des doses de côté qui leur seraient destinées, ça ne viendrait pas vraiment ébranler les campagnes de vaccination nationales. Et là, petite parenthèse d'ailleurs ici pour vous dire que dans certains pays, même les athlètes sont déjà prioritaires. La Serbie et la Hongrie notamment ont déjà entamé la vaccination de leurs représentants pour les prochains Jeux olympiques. Et l'Israël, imaginez, prévoit même avoir vacciné l'ensemble de sa délégation olympique d'ici un mois.
Oui, bien, Israël sont en avance sur ce processus-là, sur toute la planète, là, depuis, ils ont quelques mois d'avance sur toute la planète. Ce qui me fait sourire, c'est quand même que la Serbie soit parmi les pays que tu as nommés, le pays natal, évidemment, de Novak Djokovic, ça me fait rire. Écoute, LP, je ne veux pas te lancer en dessous de l'autobus, comme on dit, mais et je ne sais pas si tu connais la réponse à ma prochaine question, mais est-ce que des organismes privés, sous-entendu ici, des organismes comme l'ATP et la WTA peuvent acheter des doses de vaccins de façon privée et décider de vacciner de façon privée les athlètes ou est-ce que ça doit absolument passer par une entité gouvernementale?
Honnêtement, je ne me suis pas rendu jusque-là dans la réflexion, mais si je pourrais vous parler de quelque chose d'autre que j'ai lu, c'est prenons les Jeux olympiques, par exemple. On s'entend qu'il y a beaucoup de vaccins qui sont fabriqués dans différents pays. Il y en a en Chine, il y a l'AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, etc. Donc, est-ce que ça devrait être institutionnalisé ou l'athlète se fait vacciner dans son propre pays? Ben, une question qui est soulevée en ce moment, c'est est-ce que tous les vaccins seront considérés comme valables, étant donné qu'ils n'ont pas tous la même efficacité? Donc, ça serait de savoir, c'est ça, est-ce qu'ils vont refuser la participation ben, dans une perspective où le vaccin deviendrait obligatoire aux Jeux olympiques, est-ce qu'ils vont décider d'exclure certains athlètes parce que le vaccin qu'ils ont pris ne figure pas dans les listes autorisées?
Oui, ben, je pense que c'est une question qui se pose, mais ça commence à compliquer la question et le débat pas mal, je pense. De toute façon, je pense que l'échantillon est encore vraiment trop court pour qu'on ait les réponses à ces questions-là. Pour répondre à la question, moi non plus, je pense pas qu'on doit vacciner les athlètes en priorité. C'est des gens comme tout le monde. Et oui, ils sont essentiels à notre divertissement. Ils sont essentiels pour nous changer les idées dans un contexte comme ça. Maintenant, je pense pas qu'ils sont essentiels au point de les vacciner en priorité. Et ça, c'est mon humble avis. LP, merci beaucoup pour ton temps. Tu reviendras nous voir. C'était très à propos comme sujet dans le cadre de cette année. Et merci pour ton temps, mon ami.
Il n'y a aucun problème, ça fait grand plaisir, franchement.
Merci encore, LP, pour ton excellent travail. Nico, sujet relié, Gilles Simon, lui, et la bulle.
Oui, ben les Français qui, visiblement, ne se plaisent pas beaucoup sur le circuit de l'ATP cette année avec Benoît Paire et maintenant Gilles Simon, qui dit, déclaration quand même assez importante, messieurs, là, qui dit que les bulles ne protègent pas les joueurs, mais les tournois, et qu'en bout de ligne, ben, c'est plus nuisible qu'autre chose. Je vous rapporte certains de ses propos les plus marquants. Là. Il dit que les joueurs sont des victimes, ajoute qu'ils sont restreints à vivre dans les bulles, que la réduction des bourses ne donne envie de jouer à personne, qu'ils jouent dans des conditions de jeu extrêmement difficiles et qu'ils se sentent même obligés de jouer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais de mon point de vue, ça me semble un peu exagéré de se victimiser de la sorte. On en a parlé avec LP il y a quelques instants. Je veux dire, Gilles Simon, peut-être qu'il se trouve un peu trop important et peut-être qu'il accorde trop d'importance au métier qu'il pratique.
Ben, la question qu'il faut poser, c'est est-ce que les bulles sont d'abord et avant tout sécuritaires? Je veux dire, Chapovalov l'a évoqué dans le passé, que les bulles n'étaient pas plus sécuritaires que ça. Moi, je peux vous dire, pour avoir vécu dans le monde du hockey des environnements protégés, de la façon dont nous, en tout cas, c'était organisé au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'était magnifiquement bien organisé. On croisait pas beaucoup de monde de l'extérieur, des hôtels. On avait des étages, ni plus ni moins, réservés aux gens qui sont dans la bulle. Les transports sont organisés également. Les horaires sont faits en sorte que, bon, tu croises presque personne d'autre, même si c'est dans un hôtel qui est public. Alors, moi, ce que j'ai vécu comme environnement protégé, c'était magnifiquement bien organisé. J'ai de la misère à croire que l'ATP et la WTA ne feraient pas aussi bien, sinon encore même mieux. Tu sais, je ne sais pas à quel point on peut faire mieux, mais j'ai de la misère à croire que ces bulles-là ne seraient pas sécuritaires. Alors, j'ai tendance à croire, comme toi, Nico, que j'ai peut-être un peu... Peut-être que M. Simon se voit peut-être un peu plus gros que c'est. Je ne sais pas, toi, c'est quoi tes échos à ce niveau-là, Hugues?
Ben, un peu les mêmes points qu'on a fait plus tôt. Moi, je trouve qu'ils ont la chance de pouvoir faire leur boulot, d'être payés. L'environnement est pas optimal. On n'a pas l'énergie de la foule. Les bourses sont réduites. Mais quand même, ils peuvent pratiquer leur sport. Ils sont de retour sur le circuit toute l'année. Moi, je serais prêt à échanger ma place demain si je pouvais avoir accès au circuit professionnel, même au circuit ATP 250. Je pense que c'est un peu un commentaire d'enfant gâté. Donc, je regrette là, mais encore une fois, j'ai un peu de difficulté avec ces commentaires-là en ce moment. Je vois pas de vraies raisons de prendre en pitié ces joueurs-là en ce moment qui sortent avec ces commentaires-là.
Parlant d'enfants gâtés, messieurs, il y en a un autre Français qui fait des siennes. Je vous laisse avec une clip quelques secondes.
Non, ça me passe au-dessus de la tête, tu vois, je perds, c'est pas mieux, je rentre chez moi. Je gagne, je me dis qu'il y a deux jours de plus, et puis après je perds. Donc franchement, vraiment rien à cirer.
Et donc du coup, à la limite, pourquoi une bonne pause ou non?
J'ai pris 12 000 balles. Alors vous allez encore dire, il parle beaucoup d'argent, mais j'ai pris 12 000 euros pour être à l'hôtel tranquille. Après, je rentre chez moi. Franchement, c'est parfait.
Une autre semaine, une autre déclaration choc de Benoît Paire. Je pensais pas qu'on allait en parler cette semaine, mais puisqu'il nous l'oblige, c'est le début de la saison de terre battue et Benoît Paire n'est pas plus content de la situation. Hugues, je sais que tu es un peu tanné de cette situation-là.
C'est un peu usant pour le tennis en général. Lui se décrédibilise un peu à chaque semaine. Il peut le penser, mais de sortir publiquement comme ça, tournoi après tournoi, c'est un peu déplorable. Surtout que durant Miami, il a dit « Bon, enfin, c'est terminé, j'ai hâte à un vrai tournoi. Monte Carlo, dans deux semaines, je serai prêt. » Et Rebelote, il fait la même chose au premier tour. Il perd le match sur une double faute. Je pense que tout le monde en a un peu assez de le voir là.
Et je pense que le plus inquiétant, à partir de maintenant, c'est que les valves sont ouvertes. Donc, il n'a plus à se retenir. On sait ce qu'il en pense. On sait qu'il est capable de le dire. Donc, je m'attends au pire à chaque semaine.
Ouais, c'est dommage d'une certaine manière parce que ça détourne l'attention de belles choses qui se passent dans le monde du tennis. Et en tout cas, lui se clame la voix de ceux qui. Il dit tout haut ce que les autres ne disent pas tout bas, mais moi, je pense vraiment pas que c'est la majorité des joueurs. Enfin, peut-être que je me trompe, là, j'ai pas parlé à la majorité des joueurs, certainement pas, mais je serais surpris que la majorité des joueurs pensent comme lui. Est-ce que c'est dommage qu'il n'y ait pas de partisans? Oui. Est-ce que ça enlève de l'ambiance? Oui. Mais est-ce que tu es payé plusieurs dizaines de milliers de dollars pour jouer au tennis? Oui. En bon Québécois.
Fais ta job. T'es là pour faire
ton
une
travail.
Job.
Fais ton travail.
Exact.
Fais ton travail. Messieurs, justement, bon, c'était notre bizarre d'introduction pour Monte-Carlo, où là, on commence à avoir un Masters Mill qui ressemble beaucoup plus à un Masters Mill en termes de joueurs que ce qu'on avait à Miami. Et bon, dans le cas de Miami, c'était pas, on a eu un super tournoi quand même, mais là, on a quand même Medvedev qui est là, on a quand même Novak Djokovic qui est là. Messieurs, c'est un vrai tournoi de terre battue. Et faut pas oublier non plus le roi, le seul et unique, Raphaël Nadal, qui est à Monte-Carlo. Évidemment, il y a Félix Auger-Aliassime aussi qui est là. D'ailleurs, il joue aujourd'hui. Au moment d'enregistrer, on n'aura pas le résultat, mais il joue contre Christiane Garin. Ça devrait passer. Petit commentaire sur ce tournoi-là, messieurs. Hugues, je sais que tu aimes beaucoup la saison de terre battue rouge.
Pour moi, c'est vraiment le début de la vraie saison de tennis. C'est le printemps. Il fait beau. On est sur la Côte d'Azur du côté européen pour cette série de tournois. Et il commence à faire plus chaud ici au Québec aussi. Écoute, 8 joueurs du top 10 sont là. Il manque évidemment Federer et Thiem cette semaine, mais c'est un gros, gros, gros tableau. Je pense que tous ces gens-là sont en mode préparation pour Roland-Garros. On va avoir une belle semaine de tennis. Oui, c'est un tournoi que j'affectionne particulièrement. Un des plus beaux cours central au monde, au bord de la mer. C'est juste sublime, ce Monte Carlo Country Club.
Quelques matchs à surveiller dans ce premier tour, messieurs. Sinner, ce ne sera pas nécessairement évident contre Albert Ramos, qui est un bon joueur de terre battue. On a également un match assez intéressant au premier tour entre David Goffin et Marin Cilic. Et on a parlé tantôt, Félix Auger-Aliassime, lui, affronte Christiane Garin, qu'on a déjà vu lui d'ailleurs au tournoi de Repentigny. Alors, quelques matchs intéressants dans ce tournoi, dans ce premier tour à Monte-Carlo. Voyez-vous, d'ailleurs, je vais revenir sur Sinner là, rapidement, là, lui, il pourrait affronter Novak Djokovic déjà au deuxième tour. Là. Alors, ça pourrait être un match de calibre de finale au deuxième tour, c'est un peu dommage. Nico, je te demande, qu'est-ce que toi tu surveilles principalement dans ce tournoi-là?
Bien, ce que je surveillerai, c'est le fait que c'est un tableau très corsé, très serré, mais qu'en même temps, tous les membres du top 10 peuvent l'emporter, j'ai l'impression. Zverev connaît des bons moments. Tsitsipas, bon, là, affrontera Karatsev. On sait que Karatsev, depuis un an, c'est pas nécessairement gagné d'avance, mais après ça, tu as des Djokovic qui peuvent l'emporter, tu as des Medvedev. Donc oui, c'est très corsé, mais en même temps, jusqu'à la toute fin, ce sera serré. Là, jusqu'au quart de finale, tout peut arriver. Et après ça, bien, plus ça va aller, plus ça va avancer, bien, plus le tournoi sera corsé et serré. Eh bien, tant mieux pour nous.
Et beaucoup de bons joueurs de terre battue, là. Schwartzman en est un, Medvedev, c'est toujours dangereux. Nadal, ben, il n'y a pas besoin de présentation. Et non, il y a beaucoup de. Ça va être un tournoi très intéressant, très intéressant. J'ai hâte de voir où Félix va aller. La terre battue, c'est sa surface de prédilection, c'est sa surface préférée. Alors, bien hâte de voir aussi l'impact de Tony Nadal à ses côtés. Je veux dire, elle ne peut pas avoir mieux que ça. On en a parlé plus tôt dans l'émission avec Louis Barfiga. Quand même hâte de voir les résultats de ça. Hugues, saison de terre battue, c'est ta saison préférée. Tu disais, tu veux nous faire un petit round-up là, de ce qui s'en vient pour la saison à venir?
Avec plaisir. Ben, c'est un stretch doré. Là. Il y a trois Masters 1000 qui s'enchaînent avant d'arriver à Roland-Garros. C'est vraiment la route pour Roland-Garros. Et souvent, le joueur qui arrive en forme à Monte-Carlo gagne à Roland-Garros. Historiquement, il y a eu 18 joueurs qui ont fait le doublé Monte-Carlo, Roland-Garros. Évidemment, Nadal est celui qui le fait de façon naturelle. Le dernier joueur à avoir fait un doublé avant Nadal, savez-vous c'est qui? Une petite question quiz comme ça.
Le dernier joueur à avoir fait un doublé Monte-Carlo...
Roland-Garros, oui.
Djokovic?
Non, c'était... En 2003, Juan Carlos Ferrero. Donc, depuis 2005, Nadal a pris tout l'espace durant cette période-là. Même que Nadal a une année, en 2010, gagné les trois tournois Masters 1000, donc Monte-Carlo, Madrid, Rome et après Roland-Garros. Ce qu'on appelle le Chelem rouge, en passant, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est le seul à l'avoir fait de l'histoire du tennis, donc c'était en 2010. Donc, quatre superbes tournois qui ont beaucoup d'histoire aussi. Monte-Carlo, le Monte-Carlo Country Club, on en parle avec Louis Barfiga aujourd'hui. aujourd'hui qui a joué et travaillé aussi. C'est le cours de la Principauté, évidemment. C'est un des plus beaux clubs au monde. Si vous avez la chance de le voir, allez-y en courant. Ça serait une des premières destinations que j'aurais à vous recommander dans le parcours de tennis. Généralement, la transition entre les saisons dures de printemps du côté américain et la saison de terre battue européenne se fait par une petite intermède sur terre battue américaine. Il y avait, évidemment, Charleston la semaine passée pour les femmes, mais il y avait aussi les US Clay Court Championship à Houston habituellement. Ils ont été annulés cette année, mais c'est le American Clay. Donc, parlons un peu de la surface aussi. L'American Clay, c'est le hard true. Donc, c'est de la petite roche concassée grise. Mais à Houston, pour encourager des joueurs à venir jouer plutôt que partir en Europe tout de suite, ils ont fait du hard true rouge. Donc, les Américains se sont adaptés un peu à la surface de la saison, mais c'est pas du tout la même sensation pour ceux qui ont joué sur les deux surfaces. La vraie terre battue ocre, c'est beaucoup plus doux, c'est comme du velours joué là-dessus, c'est vraiment très, très agréable. Donc, Monte Carlo, ça va suivre après Barcelone et Munich, qui sont des plus petits tournois. Donc, Barcelone, c'est un ATP 500, Munich, c'est le tournoi BMW, un 250. Ils ont déplacé Estoril cette année durant cette semaine-là aussi, qui était généralement la première semaine lors du début de la saison de terre battue européenne. Et après, Madrid. Quelques points sur Madrid. Vous souvenez-vous de ce qui s'était passé en 2012, la fameuse terre battue bleue. Donc, Yann Thiriac, qui était promoteur du tournoi, avait fait mettre une terre battue bleue. Il innove beaucoup, hein. Il y a toujours des choses au tournoi de Madrid. Il y avait eu les coureuses de balles sexy pendant une couple d'années. Évidemment, ça passe plus aujourd'hui. Ils ont arrêté ça, et Dieu merci. Donc, Yann Thiriac était allé avec une terre battue bleue pour aller avec la couleur du circuit en général. Les joueurs avaient détesté ça. C'était très, très glissant. Beaucoup de plaintes. Ils l'ont fait une année seulement en 2012. Ils sont revenus à la terre battue ocre. Et en 2012, c'est Federer qui avait gagné sur cette terre battue bleue qui était très rapide. Après,
c'est ça que j'allais dire. Dans mon souvenir, c'est Federer qui avait gagné l'édition sur terre battue bleue.
Exactement, exactement. Lui avait assez aimé ça parce que c'était une terre battue plus rapide, en fait. Donc, il convenait bien à son jeu. Donc, Madrid et suivra, évidemment, Rome. Donc, au Foro Italico, un superbe club aussi avec des statues de marbre tout autour des terrains adjacents. Un superbe, superbe tournoi. Donc, il commencera le 9 mai. Après deux semaines de pause et Roland-Garros commence. Donc, très, très belle série durant l'année. Moi, je pense que c'est ma série préférée parce qu'encore une fois, on sent que c'est le printemps, il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Tout cet engouement sur la Côte d'Azur durant cette époque-là est intéressant. Généralement, tu as le Grand Prix de Formule 1 de Monaco pas très loin après. Tu as le Festival de Cannes qui s'en vient. Donc, c'est un moment de l'année qui est réjouissant sur la Côte d'Azur, surtout pour le tennis.
Oui, c'est tellement une belle période de l'année. Puis c'est dommage, d'une certaine manière, qu'on n'ait pas pu assister à l'autre belle période de l'année, qui est l'enchaînement Miami-Indian Wells, qui est Indian Wells exact. Aussi, semble-t-il, qui est un des plus beaux tournois à visiter. Là. Messieurs, petite question quiz pour vous. Raphaël Nadal a remporté 11 titres à Monte-Carlo. Ça, c'est depuis 2005. Ça vous donne une idée de sa domination sur terre battue. Il n'y a que 3 autres joueurs qui ont remporté ce tournoi-là depuis. Êtes-vous capable de me nommer ces 3 joueurs-là?
Moi, je m'essaie de manière consécutive ou totale?
En fait, il n'y a que 3 joueurs depuis 2005, à part Raphaël Nadal, qui ont remporté ce tournoi-là, de 2005 à 2019.
Donc,
sûrement un latino de Jean Del Potro, David Ferrer, peut-être?
Non, il n'y a pas d'espagnol dans ces joueurs-là.
On remonte jusqu'à quelle année, Alexandre?
C'est 2014, 2015 et 2019. Le champion en titre, ce n'est pas Raphaël.
Bon, donc Fabio Fognini.
Mm-hmm. Fabio Fognini.
Qui avait battu Nadal en demi-finale dans un match superbe.
Djoko a dû le remporter, il a tout gagné.
Oui.
Novak Djokovic l'a remporté 2 fois. Et l'autre, messieurs, est un Suisse.
Wawrinka.
Oh, Wawrinka, ne tombe pas dans le piège de l'indice et saute sous Wawrinka. Très solide réponse, Uglégé. Là, t'impressionnes non seulement l'animateur, mais également tous les gens qui nous écoutent. Solide travail. Messieurs, je veux vous je veux vous remercier infiniment pour votre travail cette semaine. Excellent travail une fois de plus. Hugues, qu'est-ce qu'on surveille la semaine prochaine?
Ben écoute, ça va être Monte-Carlo toute la semaine avant de se préparer pour Barcelone. Mais moi, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer cette semaine. J'ai hâte à notre prochain podcast lundi prochain. Je pense qu'on va avoir une finale Nadal-Djokovic et je m'en régale déjà.
Ben, c'est presque ce qu'on souhaite d'une certaine manière parce qu'on ne s'entend pas. Nico, je te donne le mot de la fin comme c'est l'habitude.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde.